On continue notre texte aujourd'hui. Et j'aimerais remettre ce moment entre les mains de Dieu, s'il vous plaît. Seigneur, merci pour ta grâce, pour ta patience envers nous. Merci pour le privilège que nous avons de te connaître, de t'appartenir. Et Seigneur, nous voulons au travers de nos études sur l'évangile de Jean, te connaître un peu mieux. C'est vrai que nous pourrions aussi évoquer la Pentecôte aujourd'hui, dans la mesure où ça a été le point de départ de ton Église, de l'Église pour laquelle tu es allé jusqu'à la croix. Mais Seigneur, permets-nous ce matin de nous souvenir du lieu, de l'endroit où tout est parti. De nous souvenir de tes paroles, de ce que tu as dit, de tes attitudes, de ta façon de vivre, de ta façon de parler, de ce que tu as annoncé avant la croix. Et Seigneur, ce matin, c'est ce que nous voulons lire dans les évangiles. Et nous te remettons ce moment afin que tu parles à nos cœurs. Au nom de Jésus, en ton nom. Amen. Oui, depuis quelques semaines, j'ai été encouragé par toutes les prédications que j'ai pu écouter. Autant Yann, Manu, Tahar, David. C'est un encouragement pour moi de voir que dans l'Église, on a quand même une diversité. Et puis parmi cette diversité, il y a aussi de la qualité, il y a du travail qui a été fait au travers de ces textes, parce que les textes ne sont pas évidents à travailler. On voit celui-là aujourd'hui, franchement, c'est pas facile du tout. Donc c'est encourageant. Alors notre texte aujourd'hui, c'est dans Jean, au chapitre 5, versets 31 à 47. Jésus qui parle, juste après cette guérison, dans ce chapitre, de cet homme, où Jésus lui a posé la question, veux-tu être guéri? Vous vous souvenez, c'est Manu qui nous en a parlé il y a quelque temps. La semaine dernière, David a continué aussi dans cette lancée, parce que Jésus a parlé de certaines choses qu'on va juste revoir succinctement. Voilà ce qu'il dit. Si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage n'est pas valable. C'est un autre qui témoigne en ma faveur, et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation vers Jean et il a rendu témoignage à la vérité. Pour ma part, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis cela afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Pour ma part, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Ces œuvres mêmes que je fais témoignent à mon sujet que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage à mon sujet. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez pas vu son visage et sa parole n'habite pas en vous, puisque vous ne croyez pas en celui qui l'a envoyé. Vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. Mais ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne reçois pas ma gloire des hommes, mais je vous connais. Vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et qui ne recherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, celui en qui vous avez mis votre espérance. En effet, si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, puisqu'il a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas à ces écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Vous imaginez un peu ce passage, il n'est pas évident. Pas facile. Décortiquer tout ça. Aucun doute, Jean est inspiré quand il écrit cet évangile. Il est inspiré. Au cinéma, nous avons vu les sept mercenaires. Là, nous allons voir les quatre témoins. Les quatre témoins de Jésus-Christ. Qui font donc suite à la série de versets qu'a commenté David la semaine dernière. Dieu vient de magnifier Jésus. D'accord ? L'expression même de sa pensée, sa parole. Il est sa parole. En montrant qu'elle est désormais l'instrument par lequel non seulement il se fera connaître à l'homme, mais par lequel l'homme sera aussi jugé. Le Fils ne fait rien de sa propre initiative et il agit en parfait accord avec le Père. C'est exactement ce qu'il va encore souligner en disant « Si je me rends témoignage à moi-même, dit-il, mon témoignage n'est pas valable. » Le mot « valable », en fait, c'est le mot « vrai ». C'est le même mot, « vrai ». C'est-à-dire que si la preuve des déclarations que Jésus vient de faire, indépendamment, on va dire, ou plutôt si les paroles que Jésus vient de faire dépendaient seulement de lui, alors son témoignage serait faux. Si tout ce qu'il vient de dire dépendait seulement de lui, ce qu'il dit de lui dépend que de lui, c'est faux. Il est celui qui parle de ce qu'il sait, de ce qu'il connaît, en l'occurrence des choses célestes, il les révèle. Ça, c'était avant, d'accord ? Avant notre passage d'aujourd'hui. Deuxièmement, il est celui qui sait où il va et qui sait d'où il est venu. Ça aussi, c'était la semaine dernière. Il est avec le Père qui l'a envoyé. Il ne parle pas de son propre chef. On pourrait se dire que c'est suffisant, il en a assez dit. On pourrait se dire, ben c'est bon, tu en as assez dit maintenant, on en sait assez sur toi. Et finalement, non, il y a maintenant des témoignages qui vont converger, même si par ailleurs au verset 34, Jésus affirme, « Pour ma part, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage. » Et ce qu'il ajoute est important. Il dit, « Mais je dis cela afin que vous soyez sauvés. » Ce n'est pas d'un homme que je reçois ce témoignage, mais je dis cela afin que vous soyez sauvés. Jésus est ce qu'il est. Il est ce qu'il est. Il n'a rien à prouver à qui que ce soit. Et la présence des témoins, on va dire, c'est comme une grâce qu'il est en train de nous faire, de nous accorder. Et Jésus va nous révéler ces quatre témoins uniquement pour une raison. Le sauvetage, pour nous sauver. C'est fou, hein ? En fait, pourquoi ? En fait, pour nous fermer la bouche, pour fermer la bouche aux hommes qui chercheraient des excuses. D'où des témoignages convergents. Il va appuyer sa personnalité, son identité, sur des témoignages qui vont converger vers tout ce qu'il a dit. Et c'est intéressant. Il dit, pour ma part, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis cela afin que vous soyez sauvés. Et on va découvrir ce matin ces quatre témoins de Jésus qui attestent finalement, qui valident, qui certifient son identité, qu'il est bien le sauveur dont nous avons besoin. Première chose, c'est... Jean-Baptiste, le premier des témoins de Jésus, versets 31 à 35. En fait, il y a quatre témoins et il y a la cerise sur le gâteau, un peu comme les étages, vous savez, d'une pièce montée. Il y a quatre étages et puis au-dessus des versets 40 à 45, c'est comme la cerise sur le gâteau. Les quatre témoins. Premier témoin, Jean-Baptiste, premier des témoins. Et je relis le passage, hein, 31 à 35. Si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage n'est pas valable. C'est un autre qui témoigne en ma faveur et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation vers Jean et il a rendu témoignage à la vérité. Pour ma part, dit-il, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis cela afin que vous soyez sauvés. Et il continue, Jean était la lampe qui brûle et qui brille et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Le précurseur, on en a parlé. Le précurseur. Premier enseignement de l'évangile de Jean, on en a parlé. Jean-Baptiste. Jésus savait parfaitement que les chefs religieux juifs à qui il a affaire là dans ses discours haïssaient Jean. Il haïssait Jean-Baptiste. Parce que, pour une raison, il dénonçait leurs péchés. Vous avez vu le message de Jean-Baptiste, hein ? Repentez-vous ! Et ils dénonçaient leurs péchés. Et les chefs religieux ne pouvaient pas laisser libre cours à leurs sentiments de meurtre. Ils ne pouvaient pas se laisser aller à tuer Jean. À cause de quoi ? À cause du peuple. Parce que Jean était apprécié du peuple. Souvenez-vous, lorsque Jésus a séché ce figuier qui ne portait pas de fruits, un figuier qui ne portait pas de fruits, il l'a séché. Les chefs religieux lui ont demandé par quelle autorité il agissait. Et il leur a dit, je vous poserai moi aussi une question, et si vous me répondez, je vous dirai aussi par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean, je vous dirai, d'où venait-il ? Du ciel ou des hommes ? Mais ils, les chefs religieux, raisonnèrent ainsi entre eux, et ils se dirent, si nous répondons du ciel, il nous dira, mais alors pourquoi vous n'avez pas cru en lui ? Mais si nous répondons des hommes, alors là, nous avons à redouter les réactions de la foule, car tous considèrent Jean comme un prophète. Alors ils répondirent à Jésus, ben nous ne savons pas. Ah, nous savons, on ne sait pas. Ni d'un côté, ni de l'autre. Ils ne se prononcent pas parce qu'ils ont un problème. Il leur dit à son tour, ben moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Et vlan. Les religieux sont misérables. Ils sont misérables. Franchement, ils sont misérables. Non seulement ils sont esclaves de leur système politico-religieux, etc., qui les retient loin du Fils de Dieu et de ses valeurs, au point même d'avoir de la haine pour un des serviteurs de Dieu, qui est authentique. Et finalement, leur hypocrisie malveillante les empêche de venir et de croire en Jésus, de marcher dans la lumière, parce qu'ils sont hypocrites. Aucun rapport avec Jean-Baptiste. Hein. Jean-Baptiste, il est transparent, il est intègre, il porte la ceinture de la vérité, il est clair. Il est cette lampe, comme dit Jésus, qui brille, qui brûle et qui brille. Et qui reflète quoi ? La vraie lumière. Il reflète la vraie lumière, celle du Fils de Dieu, celle de Jésus, qui éclaire tout homme. Vous savez, ces religieux finalement, ils lisaient la Bible qui annonçait non seulement la venue d'un Messie souffrant, mais en plus Jean-Baptiste et son ministère. Et Jésus fait référence à Jean-Baptiste à cause de son message de repentance. C'est un témoignage convergent. On passe au second témoin. Les œuvres que le Père a données à Jésus d'accomplir. Verset 36. Pour ma part, dit-il, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a données d'accomplir. Ces œuvres mêmes que je fais témoignent à mon sujet que c'est le Père qui m'a envoyé. Les actes de Jésus, ce qu'a fait Jésus, ça porte le sceau de la nature par lequel de Dieu, la nature par lequel il les accomplit, ces actes. C'est la signature de Dieu. Souvenez-vous encore, Jean-Baptiste, emprisonné, envoie deux de ses disciples vers Jésus pour lui demander. Enfin, il était tombé bas là, Jean-Baptiste. Hein ? Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle. » Matthieu 11. Les ennemis de Jésus ne pouvaient pas nier la puissance et la réalité des signes qu'ils voyaient. Par contre, il y a une chose qu'ils pouvaient faire, c'est mettre en doute leur origine et leur nature. Ils ne pouvaient pas nier ce qu'ils voyaient. Cet aveugle né, ils vont le voir, mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? Mais est-ce que vous êtes sûr qu'il était vraiment aveugle ? Et non seulement l'incrédulité poussait les spécialistes de la loi à l'accusation extrême de Jésus, allant jusqu'à dire qu'il était inspiré par Belzébul. Et que ces miracles, finalement, en l'occurrence même les exorcismes qu'il pratiquait, trouvaient leur origine en Satan. Péché impardonnable. Je suis content d'aborder ça. Parce que vous savez, tous les gens qui se tournent vers le Seigneur, au bout d'un moment, il y en a beaucoup qui viennent me dire « Je crois que j'ai fait le péché impardonnable. » Je ne sais pas pourquoi. Quand ils tombent sur ces textes, ils ont tout de suite, on dirait qu'il y a quelque chose qui leur dit « Est-ce que tu n'aurais pas par hasard commis le péché impardonnable ?» Parce que celui qui pense que Jésus agit par le diable se coince en quelque sorte dans sa condition de pécheur et se ferme la porte du salut. Il se ferme la porte du salut. Écoutez bien, je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux hommes ainsi que les blasphèmes qu'ils auront proférés. Il peut tout pardonner. Mais celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il ne peut pas. Il mérite une condamnation éternelle. Jésus parla de cette manière. Pourquoi ? Parce qu'il disait « il a un esprit impur ». Jésus parlait ainsi parce qu'il disait « il a un esprit impur ». Du moment où je crois que Jésus est envoyé par le diable, je me ferme la porte du ciel. C'est logique. Je ne peux plus avoir accès à un salut qui n'est pas le salut. Puisque c'est le diable, il ne veut pas nous sauver. Alors, nier l'origine et la nature divine des signes messianiques, c'est aussi une manière de fermer les yeux sur la réalité. Je ne veux pas voir ce que je vois. C'est aussi une manière de ne pas capituler devant Dieu, de ne pas dire « ouais, j'avoue, je capitule, tu existes ». C'est aussi une manière de se complaire dans sa suffisance. Et même, sans la moindre pression religieuse, combien de gens autour de nous luttent désespérément ? Ils luttent, résistant aux preuves de la messianité de Jésus. Il y a quelques semaines, il y a eu une émission sur le personnage Jésus. Et c'était marrant de voir les commentateurs. Il y en avait qui étaient vraiment super. Ah oui, mais Jésus, quand il a changé l'eau en vin, mais en fait, simplement le miracle revient au fait qu'il ait mis la bonne quantité d'eau dans le vin qui existait déjà. D'accord. Ah oui, 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 non, mais là, quand il a marché sur l'eau, c'est parce que ceci ou parce que cela. Là où ça devient un peu plus délicat, c'est quand il y a la résurrection de Lazare. Alors là, ouais. Ouais. Et puis alors sa résurrection. Le Seigneur place aussi parfois des gens autour de nous et dans la vie de ces gens, il fait des miracles. Il fait des miracles, de vrais miracles. Mais ces personnes résistent. Elles résistent. Parfois même, elles reconnaissent les miracles, mais elles ne changent pas vraiment de vie. Il y a quelque chose qui bloque. Leur attitude reste la même. Combien de gens nous avons vu passer avec Martine au groupe Découverte ? Beaucoup n'ont fait que passer. À la fin de ce chapitre, les religieux iront jusqu'à fermer volontairement leur cœur aux quatre témoins que Jésus est en train de leur présenter. Vous savez que même lorsqu'ils verront Lazare ressuscité, ils refuseront de le croire, au point même de vouloir assassiner cet homme. C'est écrit, Jean chapitre 12, verset 10, « Les chefs des prêtres décidèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de juifs les quittaient et croyaient en Jésus à cause de lui. » C'est impressionnant quand même. Ils voulaient tuer Lazare. Vous vous rappeliez de ça ? Moi, ça m'est revenu là. Ils voulaient tuer Lazare. C'est impressionnant. L'incrédulité devant Jésus n'est pas qu'une histoire de mauvaise compréhension intellectuelle. c'est parfois beaucoup d'obstination. Les gens sont obstinés. Beaucoup de gens ne veulent pas croire. Et derrière le mot croire, il y a le mot abdiquer, changer de vie. Et le témoignage de Jean-Baptiste est celui-là, changer de vie. Et là, on commence à converger. Est-ce un hasard si Jean a placé au début de ce chapitre 5 ce malade auquel il va dire « Veux-tu être guéri ?» Question bizarre. Hein? Mais quand on prend tout le chapitre dans son ensemble, on commence à comprendre les témoignages convergents, le message de Jean-Baptiste. C'est le même message. « Veux-tu être guéri ?» C'est le même. Qui dit que l'évangile de Jean n'est pas inspiré par Dieu? Mais qui peut sortir ça dans un seul chapitre? C'est quand même impressionnant, quoi. Oui, mes amis, l'auteur de cet évangile était inspiré. Ce livre est inspiré. Troisième témoin, le témoignage du Père qui a envoyé Jésus, versets 37 et 38. « Le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage à mon sujet. » Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez pas vu son visage et sa parole n'habite pas en vous puisque vous ne croyez pas en celui qui l'a envoyé. Là, Jésus est en train d'annoncer une des vérités les plus majestueuses de cet évangile. Mais les plus difficiles aussi. Si quelqu'un n'accepte pas le Fils, ne croit pas en lui, tel qu'il se présente ici, tel qu'il se présente là, parce qu'il est là, Jésus, il n'est pas ailleurs. Et n'accepte pas sa parole. Non seulement il est sans Dieu, mais quelle que soit sa religion, même s'il la pratique avec tout son cœur, il est dans l'erreur, et encore plus, il est perdu. Voilà ce que Jésus est en train de dire. Dire des choses quand même au XXIe siècle, à l'heure de la technologie, de la théorie du gender. Il faut l'entendre, hein, un truc pareil. Hein. Mais il n'a pas cessé de dire ça, Jésus. Nous sommes au chapitre 5, mais au chapitre 8, il dit encore la même chose. Écoutez, en effet, si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. Toi, qui es-tu ? Lui dirent-ils. Jésus répondit, mais ce que je vous dis depuis le début. Depuis le début, chapitre 2, chapitre 5. On est en plein dedans ? J'ai beaucoup de choses à dire et à juger à votre sujet, mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur dit donc, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous reconnaîtrez que moi, je suis ego emi. Vous en avez parlé de ça. Fabuleux, ego emi. Fabuleux. Je suis Dieu. Et que, en même temps, je ne fais rien de moi-même, mais que je dis ce que mon Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. C'est récurrent chez Jésus. Non seulement Jésus affirme sa pleine soumission au Père en tant que Fils, mais en même temps, il affirme aussi sa pleine divinité. Il met les deux en parallèle dans son discours. Et Jean nous rapporte encore au chapitre 18, versets 5 à 8, que dans le jardin de Gethsémané, Jésus dit à deux reprises, « Ego eimi » à ceux qui venaient l'arrêter. Vous relisez les passages, vous allez voir. Et cette affirmation, qui est traduite par « c'est moi », c'est plus qu'une affirmation. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'au verset 6, lorsque Jésus leur dit « c'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Ils tombèrent par terre. Parce que l'affirmation « c'est moi », c'est « ego emi », c'est « moi, je suis ». C'est la parole que a dit Dieu au mont Sinaï à Moïse. Et d'ailleurs, tiens, Moïse, en parlant de lui, on va en parler. Et Jean ne cesse d'en faire référence en soulignant l'origine des conséquences de ce qui le nie. Même dans ses lettres, un Jean qui est menteur, n'est-ce pas celui qui nie que Jésus est le Messie? Tel est l'Antichrist, celui qui nie le Père et le Fils. Si quelqu'un nie le Fils, il n'a pas non plus le Père. Puis dans sa deuxième lettre, il dit « En effet, de nombreux imposteurs sont venus dans le monde, Ils ne reconnaissent pas que Jésus est le Messie, venu en homme. Voilà ce qui caractérise l'imposteur et l'Antichrist. 2 Jean, verset 7. Et du fait que ces religieux ne voient pas en Jésus le Fils de Dieu, cela prouve que les religieux n'ont jamais entendu la voix du Père. Ils n'ont jamais vu son visage. Et le fait d'être juif ne leur donne pas un passe-droit. Non, ils n'ont pas un passe-droit, du tout. S'ils n'acceptent pas que Jésus est l'envoyé de Dieu, le Messie, le Fils de Dieu, ils sont perdus. Au même titre que les autres. Et ce don inestimable de Jésus est inséparable de sa parole, la parole de Dieu. Et on arrive au quatrième témoin, le témoignage des Écritures, versets 39 et 40, où Jésus dit « Vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir, par elles, la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Il faut savoir que les Juifs de l'époque se réclament de l'Écriture. Ils se réclament de l'Écriture, de la loi de Moïse. Ils élèvent des monuments aux prophètes, qu'ils ont d'ailleurs tués. Mais les Juifs de cette époque, ils se disent, mais si nous, on avait été là, à ce moment-là, on n'aurait jamais tué les prophètes. Ils étaient bêtes à l'époque, hein, ils tuaient les prophètes. Et ils élèvent des monuments. Et leur pratique de la religion, elle est tellement devenue rituelle, traditionnelle, voire même culturelle, que finalement, elle n'avait plus rien à voir avec le contenu même des Écritures. Beaucoup de gens aujourd'hui pratiquent la religion de cette manière, hein, quelle que soit la religion, hein, même chrétienne. Il y a une employée où travaille Manon. Manon travaille dans une maison de retraite. D'ailleurs, ce matin, elle n'est pas là parce qu'elle travaille aujourd'hui. Elle a dit, moi, je suis chrétienne orthodoxe, mais je vais devenir bouddhiste. Et Manon, elle me dit, mais comment on peut faire ça? J'ai dit, mais quand on est dans la religion, on peut faire ça. Tu peux même avoir une religion par jour. Tu peux être le lundi bouddhiste, le mardi orthodoxe et le mercredi musulman et le jeudi chrétien et puis le vendredi juif. Puis le samedi, tu es tout en même temps. Non, ça pose aucun problème. Et ce qui m'a interpellé dans les paroles de Jésus, c'est qu'il précise « Vous étudiez avec soin les Écritures. » Vous étudiez avec soin les Écritures. Ça nous porte à croire qu'on est non seulement du bon côté quand on fait ça, mais qu'on est des gens bons, en deux mots. Hein. Quand on étudie avec soin, voilà. Mais Jésus est en train de souligner le fait qu'il n'y a rien de vraiment vivifiant à étudier les Écritures si on ne parvient pas à discerner sa personne, son esprit derrière. Et c'est pour ça qu'il déclare, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. C'est-à-dire, ce que nous appelons Ancien Testament est interprété ici comme une annonce de sa personne, de son ministère, de son enseignement, de sa mort et de sa résurrection. Et Jésus est venu accomplir tout ça. D'ailleurs, il le dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Pour l'apôtre Paul, la loi ne procure pas la vie. Et il le dit, Romains 7, il dit, « Il s'est trouvé que le commandement qui devait conduire à la vie m'a conduit à la mort. En effet, le péché, saisissant l'occasion offerte par le commandement, m'a trompé et par lui m'a donné la mort. » Aux Galates, il dit que la loi est donc contre les promesses de Dieu, mais certainement pas. Si une loi qui puisse procurer la vie avait été donnée, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a déclaré le monde entier prisonnier de quoi ? Du péché, afin que ce qui avait été promis soit accordé par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Et c'est pour ça, en parlant des Israélites, des religieux, Paul dira, ils ignorent la justice de Dieu et cherchent à établir leur propre justice. Ils ne sont donc pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour tous ceux qui croient. Tout comme Jean-Baptiste. Alors c'est là qui est intéressant, c'est très intéressant de voir les témoignages convergents, parce que tout comme Jean-Baptiste, les Écritures, si elles sont bien comprises, orientent vers Jésus. C'est ce que Jésus est en train de dire. J'ai le témoignage et de Jean-Baptiste qui oriente vers moi. Rappelez-vous, voici l'agneau de Dieu. Je ne suis même pas digne de délier les lacets de ses souliers. Et le témoignage des Écritures qui pointe vers Jésus. Ça converge. Tout converge vers le Fils de Dieu. C'est fantastique, hein? Et on comprend peut-être pourquoi maintenant, dans son évangile, Jean passe du témoignage de Jean-Baptiste à celui des Écritures. Pourquoi il emploie souvent ce mot « la parole » Et ceux qui ne veulent pas venir à Jésus pour avoir la vie, comme dit Jésus, prouvent finalement qu'ils ne lisent pas leurs Écritures comme ils le devraient. Je cite le théologien Don Carson, parce que finalement, les religieux, c'est ce qu'il y a de pire. C'est pour ça que je dis quel état misérable. Le théologien Don Carson dit ceci, « Aucune volonté d'autonomie n'est plus arrogante et trompeuse que la volonté d'autonomie religieuse qui atteint son point culminant lorsqu'elle fausse le cœur de l'Écriture. » Je répète, aucune volonté d'autonomie n'est plus arrogante et trompeuse que la volonté d'autonomie religieuse qui atteint son point culminant lorsqu'elle fausse le cœur de l'Écriture. Le monde païen, mes amis, résiste à Dieu, à une sécurité illusoire. Ça peut être le matérialisme, ça peut être les scientifiques, ça peut être les philosophes, etc. Mais la pire des sécurités illusoire, c'est celle des religieux. C'est la pire. Parce que les Juifs font d'ici tout un schéma de vie, soi-disant fondé sur les Écritures, et ils passent à côté d'eux, Jésus. C'est encore pire. Le religieux est pire que le séculier. C'est pour ça que je disais, c'est pas un problème juif, c'est un problème religieux. Un évangélique peut tromper dans ce travers aussi. On pourrait presque se poser la question, qu'est-ce qu'un chrétien? Fréquenter des lieux chrétiens, lire des livres chrétiens, avoir des activités chrétiennes avec des chrétiens, dire bonjour à des chrétiens. Comme je dis, fréquenter un McDo ne fait pas de nous des hamburgers. Pour terminer, les versets 41 à 47. « Je ne reçois pas ma gloire des hommes, mais je vous connais, et vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et qui ne recherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse !» Celui en qui vous avez mis votre espérance. En effet, si vous croyez Moïse, si au moins vous croyez Moïse, ben vous me croiriez aussi, puisqu'il a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Au verset 35, au début, Jésus a déclaré qu'il n'avait pas besoin de recevoir son témoignage d'un homme. Mais pour que son plan de sauvetage soit sans faille, d'accord ? Et que les hommes ne puissent pas trouver des excuses, il l'a fait. Il a donné les témoignages convergents. Il a fait en sorte que nous ayons la parole de Dieu. Il a fait en sorte que nous ayons le témoignage de Jean. Maintenant, Jésus affirme qu'il ne reçoit pas sa gloire des hommes. Et encore une fois, les actes messianiques qu'il accomplit manifestent non seulement son identité, mais encore sa gloire. Si Jésus s'était abaissé jusqu'à devenir le Messie, finalement, que ses adversaires attendaient, c'est-à-dire un Messie musclé plutôt qu'un Messie souffrant, d'accord ? bien finalement, il aurait reçu quoi ? La gloire des hommes. Mais il n'aurait certainement ni été rejeté, ni crucifié. Mais voilà, non seulement le désir suprême de Jésus, c'est d'être agréable à son Père, chapitre 5, verset 19, que nous avons vu avant, avec David, mais Jésus souhaite recevoir uniquement l'honneur que seul le Père peut donner, verset 23. Et ainsi, il reçoit la gloire du Fils unique venu du Père. Prologue, chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole est avec Dieu, la parole était Dieu. À l'opposé, à l'inverse, les adversaires de Jésus aiment être applaudis les uns par les autres, verset 44, et cette attitude montre que l'amour de Dieu n'est pas en eux. Et Jésus le sait, il les connaît. D'ailleurs, cette attitude poussera les Juifs de l'époque, et d'autres, même pas que des Juifs, à suivre d'autres messies, des faux messies. L'historien Flavius Joseph nous parle de faux messies, d'une foule de prétendus messies dans les années qui ont précédé l'an 70 de notre ère. Il y a eu Bar Koba, vous avez entendu la révolte de Bar Koba? Vous avez déjà entendu parler de ça? C'est arrivé en 132 après Jésus-Christ. Et le grand prêtre de l'époque, Rabbi Akiba, considérait ce Bar Koba comme l'astre de Jacob annoncé par Balaam dans Nombre. C'est intéressant quand même. Si quelqu'un vient en entre, vous le recevrez. S'il y en a un qui viendra de son propre chef, vous le recevrez. Parce que ce que vous attendez, non, c'est pas moi. Vous attendez quelqu'un qui arrive et qui coupe la tête aux Romains, non, c'est pas moi. Moi, je vais là, à la croix. Et on sait que beaucoup de Juifs, sous la coupe romaine, aspiraient plus à un libérateur qu'à un serviteur. Et ils étaient prêts à écouter tous ces prétendants messianiques qui arrivaient qui aspiraient peut-être même à la célébrité. Hein. Et c'est aussi ce que soulignera Jean au chapitre 12, verset 43. Il dira, en effet, ils aiment la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Dans ces conditions, comment auraient-ils pu croire? C'est ce que Jésus souligne au verset 45. Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Moïse est là pour ça. Mais bien sûr, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, d'accord? Mais pour que le monde soit sauvé. Et Paul soulignera dans son épître aux Romains, « Toi qui te donnes le nom de Juif, tu te reposes sur la loi. » Mais c'est celle-là qui va te condamner. Tu te reposes dessus, ça va te condamner. Parce que la loi, tu ne dois pas, tu dois faire. Les 10 commandements nous condamnent, ils sont là pour ça. Ils sont là pour nous montrer que nous ne sommes pas à la hauteur. Vous savez que les Juifs pensaient que Moïse intercédait pour eux, comme il l'a fait sur le mont Sinaï. Les Juifs pensaient ça. Ils pensaient que Moïse était leur médiateur. Jésus est en train de leur dire qu'ils sont dans l'erreur. En effet, si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi. Vous lisez mal. Vous faites de la loi une fin en soi, alors que la loi pointe vers moi. Témoignage convergent. La loi, l'écriture, Jean-Baptiste, tout converge vers Jésus. C'est fantastique. On dit que Jésus est la pierre angulaire, mais ici c'est la clé des écritures. Il y a un livre pour enfants qui est sorti qui s'appelle, d'ailleurs c'est aux éditions Clé. Le titre est « La Bible raconte Jésus ». On pourrait mettre même à l'envers, « Jésus raconte la Bible ». La Bible raconte Jésus et Jésus raconte la Bible. Il se cache derrière tous les récits de la Bible. Il en est la clé. Tous les récits de la Bible, que ce soit Noé, Moïse, David, chaque histoire de la Bible murmure le nom de Jésus. C'est fabuleux. Celui qui s'approche de la Bible, s'il n'a pas cette clé, il ne peut pas découvrir non seulement les trésors, il ne peut pas recevoir la vie, il ne peut pas être renouvelé intérieurement, il ne peut pas changer. La Bible ne peut pas être un miroir pour lui dans lequel il va se regarder. Ou alors il va repartir tel qu'il est, il va oublier 5 minutes après. impossible pour lui d'être transformé à l'image de Christ. Et ce chapitre termine par une question. Mais si vous ne croyez pas à ces écrits de Moïse, comment croirez-vous à mes paroles ? On a vu les quatre témoins de Jésus. Jean-Baptiste, les œuvres que le Père a données à Jésus d'accomplir. Troisièmement, le témoignage même du Père qu'il a envoyé. Quatrièmement, le témoignage des Écritures. Tout converge vers Jésus. Et cette question posée par Jésus, c'est comme la cerise sur le gâteau. On dirait que c'est même les lunettes pour voir le gâteau. Ce lieu où Jésus vient de parler, c'est Jérusalem. En fait, il est en train de parler à l'intérieur de la citadelle. C'est là qu'il y avait le plus grand nombre de ses ennemis. Jésus. Ces hommes ont osé se mesurer à celui qui, un jour, va faire trembler tout l'univers. Ils ont osé se mesurer à celui qui, un jour, tout genou fléchira et toute langue confessera « Tu es Dieu, tu es Seigneur ». Ils ont osé se mesurer à lui. C'est aussi à Jérusalem que s'est déroulée la Pentecôte. Beaucoup de choses se sont déroulées là-bas. Oser provoquer le Fils de Dieu. Je vais prier que Dieu bénisse sa parole. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour la Bible, merci pour la joie et le privilège que nous avons de pouvoir l'étudier. Merci parce que tu as inspiré des serviteurs comme Jean à écrire non seulement l'Évangile, mais aussi des lettres, le livre de la Révélation. Merci parce que tu nous parles au travers de ces écrits, tu nous enseignes, tu nous fais du bien. Et Seigneur, de la même manière que ces quatre témoignages convergent vers toi, nous voulons aussi ce matin converger nos regards vers toi. Parce que c'est toi qui mènes la foi à la perfection. C'est toi qui est la source de notre joie, de notre paix. C'est toi qui nourris nos vies, comme tu nourris nos corps. C'est toi qui nourris ton Église. Tu es là ce matin, dans cette Église, dans cette petite Église de grâce. Tu es autant là qu'ailleurs. Seigneur, merci. Merci pour ta patience, ta miséricorde et ton amour. Amen.